Il s'agissait d'un psautier sur les marges duquel se dessinait un monde renversé par rapport à celui que nos sens perçoivent d'habitude. Comme si au seuil d'un discours qui, par définition, est le discours de la vérité, se développait en un lien profond avec celui-ci, à travers de merveilleuses allusions in enigmate, un discours mensonger sur un univers placé la tête en bas, où les chiens fuient devant le lièvre et les cerfs chassent le lion. Petites têtes en forme de pattes d'oiseau, animaux avec des mains humaines sur leur derrière, têtes chevelues d'où pointaient les pieds, dragons zébrés, quadrupèdes dont le cou serpentin s'entrelaçait en mille nœuds inextricables, singes aux cornes servines, sirènes en forme de volatiles avec des ailes membraneuses sur l'échine, hommes sans bras, avec d'autres corps humains qui leur poussaient sur le dos en guise de bosse, et figures avec une bouche dentée sur le ventre, humains à la tête équine et équins aux jambes humaines, poissons avec des ailes d'oiseaux et oiseaux à queue de poisson, monstres à corps unique et double tête, ou tête unique et corps double, vaches à queue de coq aux ailes de papillon, femmes à la tête écailleuse comme le dos d'un poisson, chimères bicéphales entrecroisées avec des libellules au museau de lézard, centaures, dragons, éléphants, manticores, cyapodes allongés sur les branches d'un arbre, griffons qui donnaient naissance au bout de leur queue à un archer sur le pied de guerre, créatures diaboliques au cou sans fin, théories d'animaux anthropomorphes et de nains zoomorphes se combinaient, parfois sur la même page, en scène de vie champêtre, où vous auriez pu voir représenter avec une vivacité si impressionnante qu'on eût dit des figures vivantes, toute la vie des champs. Laboureurs, cueilleurs de fruits, moissonneurs, fileuses, sommeurs à côté de renards et de fouines armées d'arbalètes qui escaladaient une ville garnie de tours et défendue par des singes. Ici, une lettre initiale se ployait en forme de L et dans sa partie inférieure engendrait un dragon. Là, un grand V qui donnait élan au mot « verba » produisait comme vrille naturelle de son tronc un serpent aux mille volutes, à son tour engendrant d'autres serpents de pampres et de corymbes. Près du psautier se trouvait d'évidence, achevé depuis peu, un livre d'heures exquis, aux dimensions incroyablement petites, si petites que vous auriez pu le tenir dans le creux de la main. Minuscule était l'écriture, et les enluminures marginales, à peine visibles à première vue, requéraient de l'œil un examen de tout près pour apparaître dans leur entière beauté. Et vous vous seriez demandé à l'aide de quel instrument surhumain l'enlumineur les avait tracés pour obtenir des effets d'une pareille vivacité en un espace aussi réduit. De fond en comble, les marges du livre étaient envahies par de minuscules figures qui s'engendraient, comme par naturelle expansion, à partir des volutes terminales des lettres splendidement tracées. Sirènes marines, cerfs en fuite, chimères, torse humain sans bras qui se dégageaient comme des lombriques du corps même des versets. À certains endroits, comme pour continuer les trois, sanctus, 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 répétés sur trois lignes différentes, vous auriez pu voir trois figures bestiales aux têtes humaines dont deux s'inclinaient l'une vers le bas et l'autre vers le haut pour s'unir en un baiser que vous n'auriez pas hésité à définir impudique si vous n'aviez été persuadé que, ne fût-elle point évidente, une profonde signification spirituelle devait certainement justifier une telle représentation à cet endroit précis. Pour moi, je suivais ces pages partagées entre l'admiration et le rire. Parce que les figures portaient nécessairement à l'hilarité, bien qu'elles commentassent des pages saintes. Frère Guillaume les examinait en souriant, et il observa « Babouin, ainsi les appelle-t-on dans mes îles. »« Babouin, comme on les appelle dans les Gaules, » dit Malaki. « Et de fait, Adèle m'a appris son art dans votre pays, bien qu'ensuite il ait aussi étudié en France. »« Babouin, autrement dit singe de l'Afrique, figure d'un monde renversé. » Où les maisons surgissent à la pointe d'une aiguille et la terre se trouve au-dessus du ciel. Je me rappelais quelques vers que j'avais entendus dans le parler vernaculaire de mes terres, et je ne pus m'empêcher de les prononcer. Aller Wunder sie Geswingen, das Erde Himmel hat überstiegen, das sollt ihr wür ein Wunder wingen. Et Malaki poursuivit citant le même texte. Erd ob und Himmel unter. Das sollt ihr ein besonder, für aller Wunder ein Wunder. Compliment, Atso, continua le bibliothécaire. Effectivement, ces images nous parlent de cette région où l'on arrive en chevauchant une oie bleue, où l'on trouve des éperviers qui pêchent des poissons dans un ruisseau, des ours qui pourchassent des faucons dans le ciel, des écrevisses qui volent avec les colombes et trois géants pris au piège et mordus par un coq. Un pâle sourire éclaira ses lèvres. Alors les moines, qui avaient suivi la conversation avec une certaine timidité, se mirent à rire de bon cœur, comme s'ils avaient attendu le consentement du bibliothécaire, lequel se rembrunit, tandis que les autres continuaient de rire, louant l'habileté du pauvre Adelme et se montrant l'un à l'autre les figures les plus invraisemblables. Et ce fut au moment où tous riaient encore que nous entendîmes derrière nous une voix solennelle et sévère. « Verbavana aut risui apta non loqui !» Nous nous retournâmes. Celui qui avait parlé était un moine courbé sous le poids des ans, blanc comme neige, et je ne veux pas parler du poil seulement, mais aussi du visage et des pupilles. Je m'avisai qu'il était aveugle. Sa voix était encore majestueuse et ses membres puissants, même si son corps était racorni par l'âge. Il nous fixait comme s'il nous voyait et toujours, même par la suite, je le vis se déplacer et parler comme s'il avait encore le bonheur de voir. Mais en revanche, le ton de la voix était de qui ne possédait que le don de la prophétie. « L'homme vénérable d'âge et de sapience que vous voyez, » dit Malachie à Guillaume en lui désignant le nouveau venu, « est Jorge de Burgos. Plus âgé que quiconque vivant dans le monastère, sauf Alinardo de Grotta Ferrata, il est celui à qui bon nombre de moines confient le poids de leurs péchés dans le secret de la confession. » Puis, s'adressant au vieillard, « Celui qui se trouve devant vous est frère Guillaume de Baskerville, notre hôte. J'espère que mes paroles ne vous ont pas fâché, » dit le vieil homme d'un ton brusque. « J'ai entendu les personnes qui riaient de choses risibles, et je leur ai rappelé un des principes de notre règle. Comme dit le psalmiste, si le moine doit s'abstenir des propos bienveillants en raison de son vœu de silence, combien à plus forte raison il doit se détourner des mauvais propos. Et comme il y a des propos mauvais, il y a des images mauvaises. Ce sont celles qui mentent sur la forme de la création et montrent le monde au contraire de ce qu'il doit être, a toujours été et toujours sera dans les siècles des siècles jusqu'à la fin des temps. Mais vous, vous venez d'un autre ordre, où, me dit-on, on voit tout avec indulgence, fût-ce la gaieté la plus inopportune. » Il faisait allusion à ce qu'on disait parmi les bénédictins des extravagances de saint François d'Assise et peut-être aussi des extravagances attribuées aux fraticelles et spirituelles de tout acabit qui, de l'ordre franciscain, avaient été les plus récents et les plus embarrassants rejetons. Mais frère Guillaume fit mine de ne pas relever l'insinuation.